Bonjour à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, Matteo Salvini va-t-il faire imploser l'Italie ? Le prospectus ressemble à un flyer pour une tournée de concert. Matteo Salvini, tout sourire, dans un médaillon sur fond bleu comme la mer. Une liste de dates, les dates de sa tournée des plages. L'Estate Italiana Tour, en Sicile, en Ligurie, en Toscane. Le ministre de l'Intérieur assure ne pas avoir chômé ces derniers jours, comme si son tout récent divorce avait décuplé ses forces. C'était jeudi dernier, Matteo Salvini annonçait briser son mariage de raison avec le mouvement 5 étoiles, son allié au gouvernement. Et depuis, il ne tient plus en place, même s'il sait que c'est aux institutions de prendre le relais. Tout comme le juge des affaires familiales prononce la séparation d'un couple marié, c'est le Parlement italien qui doit prendre acte de la rupture politique. Les sénateurs sont réunis en ce moment en conseil solennel pour décider si et quand ils soumettront au vote une motion de censure contre le gouvernement de Giuseppe Conte. La crise politique est consumée, les issues incertaines, une chute du gouvernement en place avec élections anticipées ou non, la formation d'un nouveau gouvernement à coloration politique ou provisoirement de technicien. Toujours est-il que Matteo Salvini, tout ministre de l'Intérieur qu'il est, a réussi à dicter son agenda. Les partis s'affolent, certains croient en un front républicain pour contrer son parti d'extrême droite, la Ligue. Alors Matteo Salvini va-t-il faire imploser l'Italie ? Jusqu'à 19h, nous en discutons, nous en débattons avec trois invités. Avec nous en studio, Ludmila Acone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste de l'Italie et chercheuse associée à Paris 1. Vous êtes ici avec Anna Bonalume, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour l'Espresso, docteur en philosophie de l'ENS de Paris. Et nous sommes également en liaison duplex depuis Berne, en Suisse, depuis les studios de la RTS que nous remercions, avec Giuliano da Empoli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, directeur du think tank Volta à Milan et à Bruxelles, et vous êtes l'ancien conseiller politique de Matteo Renzi. Donc merci à vous trois d'avoir été avec nous. Les sénateurs italiens sont réunis en ce moment, c'était à 18h qu'ils devaient commencer ce conseil solennel pour décider si et quand sera soumis au vote une motion de censure. Alors évidemment, nous nous tiendrons informés d'une éventuelle annonce d'ici 19h, même si elle est très éventuelle, cette annonce, ça risque de durer un petit peu plus longtemps que ça. Mais aidez-nous d'abord à y voir plus clair, Ludmila Acone. L'Italie vit une crise politique importante. Tous les acteurs politiques du pays le reconnaissent, beaucoup le déplorent. Or, depuis quelques heures, le débat se cristallise autour de ce qui paraît de loin un détail anecdotique, la date à laquelle doit être débattue la motion de défiance visant Giuseppe Conte, le président du Conseil. Pourquoi cette date est devenue...
Oui, parce que cette date va déterminer si, oui ou non, il va y avoir des élections anticipées ou pas, s'il va y avoir un gouvernement technique ou pas, et quelles seront les issues de cette crise qui a été, je le rappelle, provoquée de façon unilatérale par Matteo Salvini, de façon un peu surprenante.
Surprenante, et puis ça paraît aussi surprenant ici, depuis la France, de voir que le ministre de l'Intérieur peut à ce point dicter un agenda, convoquer, enfin demander une motion de censure. Alors il n'a pas les mêmes fonctions que Christophe Castaner ici en France, mais en tout cas ça ne se passerait pas comme ça.
Oui, ça montre en fait le désarroi dans lequel se trouve la situation institutionnelle italienne. Il faut quand même rappeler que lorsque ce gouvernement, ces forces politiques qui sont au gouvernement sont arrivées au pouvoir, après les élections du 4 mars dernier, les sortants ont été sortis. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un vote de défiance par rapport au parti précédent. Il y a eu une défiance généralisée par rapport au fonctionnement de la politique italienne précédent. Et ceci a ouvert effectivement la porte et ça s'est concrétisé par des changements substantiels, y compris sur la forme, pas seulement sur le fond de la politique.
Alors, cette motion de censure, la gauche et le mouvement 5 étoiles demandent à ce qu'elle soit votée le 20 août. La droite et l'extrême droite, dont la Ligue de Matteo Salvini, veulent que ce soit le 14, c'est-à-dire demain. Oui, Giuliano da Empoli, ça devient urgent. Le patron des sénateurs du Parti démocrate, la gauche, dit que ses troupes ne seront pas rentrées à temps demain. Vous qui êtes toujours proche de Matteo Renzi, il est dans les parages, lui.
Oui, lui, il a même donné une conférence de presse à Rome, il y a deux heures, je crois. La vraie question, effectivement, c'est que Salvini voudrait courir les 100 mètres, c'est-à-dire il a envie que tout se passe très vite. Il a pu créer cette crise, non pas parce qu'il est le ministre de l'Intérieur, mais parce qu'il est le leader du parti qui, aujourd'hui, est un parti de minorité à l'intérieur du gouvernement, mais qui est le parti aujourd'hui majoritaire de façon relative, c'est-à-dire autour de 35, 36, 37% sur la base des résultats des élections européennes et surtout des intentions de vote. Et donc, il voudrait aller très vite. Il voudrait que il aurait même préféré ne pas passer par le Parlement, ce que toutes les autres forces politiques italiennes ont considéré impensable, parce que il voudrait que qu'on fixe une date des élections pour la deuxième moitié d'octobre et que donc tout se passe très rapidement. Et du coup, l'intérêt et la politique des autres partis et même du mouvement 5 étoiles qui était son allié jusqu'à la semaine dernière devient plutôt celui de ralentir ce parcours parce que l'Italie est toujours en réalité une démocratie parlementaire et donc si une majorité tombe dans ce système. Il faut, avant de convoquer de nouvelles élections, vérifier s'il existe au Parlement une majorité alternative par rapport à celle qui a gouverné l'Italie au cours de la dernière année et demie.
Anna Bonaloumé, on entend bien ces arguments de ceux qui veulent repousser le plus possible ces élections. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'organiser les choses, mais aussi y a-t-il sans doute une petite frayeur et une conviction que ces élections, si elles arrivaient beaucoup plus tôt que prévu dans l'agenda, profiterait de toute façon à Matteo Salvini?
Oui, effectivement, les intentions de vote, selon les sondages Ipsos, la Ligue serait entre 36 et 38% si on allait voter demain. Et tandis que le mouvement 5 étoiles, qui aux élections en mars 2018, avait gagné avec 32,7%. Actuellement, il serait à 17,8%. Du coup, évidemment, ce serait très avantageux pour Matteo Salvini d'aller aux élections aujourd'hui, même très rapidement. Son envie de pousser les choses de façon assez rapide est sûrement liée à la nécessité de fixer les bilans, en fait, les budgets très rapidement, en fait, en automne, ce qui pourrait lui l'endommager dans les intentions de vote
parce qu'il sait déjà que ça lui porterait préjudice.
Ça pourrait lui porter préjudice effectivement, et c'est pour ça qu'il voudrait avancer les élections dès que possible.
Alors, pour l'instant, tout lui sourit. Vous parlez des intentions de vote qui le donnent largement vainqueur en cas d'élection la générale anticipée à Matteo Salvini. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il a un boulevard. Il vient de remporter des succès parlementaires comme le Lyon-Turin ou la loi sécurité. Ludmila Hakone, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ce réflexe qui paraît comme un réflexe de défense, alors que tout pour l'instant, se passait quand même plutôt pas mal pour lui.
Oui, alors d'abord, un petit bémol, parce qu'il semblerait, ce sont des informations des dernières heures, des derniers jours.
Donnez les noms.
C'est qu'il semblerait que cette volonté de faire chuter le gouvernement lui porte franchement tort. Ça, c'est clair. Ça, c'est une première chose.
Les Italiens ne seraient pas d'accord.
C'est d'abord un malheur déjà à celui qui fait tomber le gouvernement, et il semble bien qu'effectivement ça soit très mal reçu par-ci, par-là. Mais il y a quelque chose, c'est Matteo Renzi qui l'a dit tout à l'heure dans sa conférence de presse. Il a mis en garde contre le fait que faire chuter le gouvernement sans la loi de finances, pour lui, ça veut dire clairement que la TVA va passer à 25-26% et que c'est une catastrophe pour l'Italie. Ça, c'est Matteo Renzi qui a dit cela. Les raisons du choix de Matteo Salvini peuvent s'expliquer par effectivement une volonté de capitaliser ses succès, mais aussi peut-être aussi par des craintes, parce qu'il y a aussi des craintes par rapport à des scandales au scandale qui touche Matteo Salvini. N'oublions pas aussi qu'il était sommé de s'expliquer sur la question, sur l'accusation qu'il a reçue sur l'affaire des fonds de la Russie. Est-ce que
révélé par votre journal, Anna Bonaloumé, des fonds Vladimir Poutine aurait financé par des circuits qui sont compliqués à expliquer là, mais une partie de la campagne de Matteo Salvini. Donc ça le met en difficulté ou pas du tout pour l'instant?
Disons, c'est assez intéressant de voir les intentions de vote parce que effectivement, au mois de février, les deux journalistes Tiziane et Virginia ont dévoilé ont publié leur enquête. Ils s'est trouvé au mois d'octobre à Moscou, à l'hôtel Métropole, où des négociations ont été en cours entre Savoïni, qui est les responsables, disons, affaires étrangères de la Ligue, et des responsables politiques russes. Et les deux journalistes ont assisté à cet échange où il y avait sur la table 65 millions de dollars que la Russie aurait pu donner à la Ligue pour financer le parti. Et cette enquête est sortie au début de l'année. Et pourtant, les intentions de vote ne montrent pas une chute ou un changement, une modification importante. Donc, ce qui confirme que la confiance du peuple italien reste presque inaltérée.
C'est vrai que pour l'instant, l'Espresso n'a pas réussi à fournir des preuves matérielles de cet échange-là et que Matteo Salvini, donc pour l'instant, s'en lave les mains.
Il y a un audio qui a été publié par BuzzFeed, un journal américain, et tout ce qui a été entendu et a été prouvé démontré par les journalistes. Oui, mais actuellement, le leader de la Ligue et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, n'a toujours pas répondu aux questions du journal.
Alors, Giuliano da Empoli, restons sur l'actualité brûlante de ce jour, l'actualité politique. Matteo Renzi, dont il faut rappeler qu'il est donc l'ancien président du Conseil, que c'est aussi l'ancien patron du Parti démocrate, qu'il est aujourd'hui sénateur démocrate, que vous avez été Giuliano da Empoli son conseiller. Qu'est-ce qui aujourd'hui convainc ou a convaincu Matteo Renzi de faire sur cette question de la date de la motion, qui est donc moins anecdotique qu'elle n'y paraît, on vient de le dire, l'a convaincu de faire alliance avec le mouvement 5 étoiles, alliance qu'il appelle à prolonger d'ailleurs dans le cadre d'un gouvernement institutionnel, une alliance entre le Parti démocrate, donc de centre-gauche, et le mouvement 5 étoiles, c'était inimaginable il y a encore un an.
Oui, tout à fait. Alors, il y a, comme Ludmila Lacone le rappelait, des raisons justement de budget, d'autres raisons, si vous voulez, contingentes, mais quand même importantes, qui pourraient justifier la formation d'un gouvernement. Mais la vraie question, elle est sincèrement ailleurs. La vraie question est une question politique sur le futur de l'Italie. Aujourd'hui, tous les sondages disent que s'il y avait un vote au mois d'octobre ou de novembre, Matteo Salvini serait en condition d'avoir une majorité assez confortable en étant seul allié avec le parti d'extrême droite de Fratelli d'Italia. Donc, sans même avoir besoin d'une alliance avec ce qui reste du mouvement de Berlusconi. Ce qui veut dire que l'Italie se trouverait face à une majorité, disons-le, d'extrême droite au gouvernement pendant 5 ans, une majorité solide au Parlement, qui aurait la possibilité de... Enfin, c'est ce que je pense moi. Après, je ne suis pas en train de prêter ces propos à Renzi, c'est plutôt mon opinion, mais à mon avis, c'est le vrai enjeu, qui aurait alors, Salvini et sa majorité, la possibilité de procéder à une véritable urbanisation de l'Italie. C'est leur projet politique.
Du nom de Viktor Orban, Du nom de Viktor Orban, le premier ministre.
Un peu sur le modèle, exactement, de Viktor Orban et de ce qu'il a fait en Hongrie, avec une référence affichée de proximité à Monsieur Poutine et aux forces les plus réactionnaires qui sont sur l'échiquier européen. Et donc, bon, il s'agit véritablement d'un passage avec tous les risques par rapport à la continuité de l'Italie à l'intérieur de l'Europe, à une éventuelle sortie de l'euro et même à un véritable Italexit et à une sortie de l'Union européenne. Donc l'enjeu est véritablement considérable.
Alors, ouais. J'entends Giuliano D'Aempoli, c'est l'enjeu évidemment de ce qui est en train de se passer en ce moment, mais j'insiste quand même sur cette question d'une alliance qui paraît a priori contre nature entre le Parti démocrate, donc de gauche, et le mouvement 5 étoiles. Est-ce que vous, en tant qu'ancien conseiller de Matteo Renzi, aujourd'hui, est-ce que vous êtes gêné de cette prise de position? Je rappelle que en 2018, quand s'était présenté l'occasion de former une coalition, parce que Parti démocrate et mouvement 5 étoiles avaient fait de bons scores aux élections, Matteo Renzi avait dit de ce mouvement, il n'est pas question, il n'est pas possible de faire alliance avec un mouvement qui est contre l'Europe, contre la science, qui vit au rythme des algorithmes et sans démocratie interne. Est-ce que tout ça doit être balayé au nom d'un front républicain, comme on le dit ici en France?
C'est toute la question. Hein, moi, je pense, d'ailleurs, j'étais tout à fait convaincu, et il y a une année, qu'il ne fallait pas faire alliance avec le mouvement 5 étoiles. Je considère le mouvement 5 étoiles comme un mouvement, justement, avec des tendances totalitaires. C'est un parti entreprise, c'est un parti qui ne respecte pas du tout les principes de la démocratie libérale et de la démocratie, représentative. C'est un parti, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Mais vous ne mettez pas au même flanc que la Ligue.
Je pense qu'il s'agirait d'une alliance tout à fait contre nature. On ne va pas se cacher là. Mais le vrai dilemme, ce sont tous de très mauvais choix.
Face à Matteo Salvini, c'est le vrai dilemme.
Est-ce que Matteo Salvini est dangereux au point de menacer la stabilité des institutions démocratiques italiennes? Il y a un an, personnellement, je pensais que non, je pensais que ça n'aurait pas été possible. Sur la base de ce qui s'est passé au cours de cette année et demie en Italie, à partir des tons du débat, du comportement de Salvini lui-même, de ses slogans, de ses attitudes, de ses continuelles références à Mussolini et postures, franchement, parafascistes, à la lumière de tout cela, aujourd'hui j'ai un doute, moi aussi. Donc heureusement, je ne suis pas dans la position de Matteo Renzi et même pas de le conseiller. Donc
Ludmila Akone,
mais je doute.
Oui, Ludmila Akone, c'est vrai que c'est aussi étrange de la part de Beppe Grillo, le fondateur du mouvement 5 étoiles, qui appelle aujourd'hui à sauver l'Italie des nouveaux barbares. Donc c'est Matteo Salvini qui est aujourd'hui directement visé, alors qu'ils ont quand même fait une coalition et aujourd'hui voilà le mouvement 5 étoiles qui s'allie au centre-gauche, alors que c'est un mouvement anti-système. Donc tout ça est un peu étrange.
Oui, mais ce n'est pas une coalition, en fait. Et 5 étoiles et la Ligue n'étaient pas une coalition. Ils ont fait un contrat de gouvernement, c'est-à-dire un minima, sur un certain nombre de questions, puisqu'il y a eu des tentatives de former d'autres gouvernements qui n'ont pas eu lieu. Je rappelle, par rapport à la question de Salvini, qu'avant les élections même, Salvini a parlé de marche sur Rome. Et là, il rebelote avec une nouvelle déclaration. Il demande les pleins pouvoirs.
Donc, si vous voulez, je suis obligée de vous le dire parce qu'on me fait signe. Voilà, merci beaucoup.
Si vous voulez, entre la marche sur Rome qu'il évoquait avant les élections du 4 mars et les pleins pouvoirs qu'il réclame aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un quelconque changement de Salvini. À un moment donné, la possibilité effectivement de faire d'autres gouvernements que celui-ci existait après les élections. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on revient un petit peu à la case départ. Et c'est quand même malheureux qu'entre-temps, tant de migrants soient morts, qu'un certain nombre de questions de lois soient passées, comme celle sur la légitime défense qui a été faite passer par Salvini. On aurait peut-être pu s'en passer.
Alors il y a au sein de la gauche, Anna Bonaloumé, il y a au sein de la gauche des grandes tensions, des grandes divergences quant au fait de soutenir ou pas une sorte d'alliance contre Matteo Salvini. Et la position de Matteo Renzi n'a pas été reprise à son compte, notamment par le patron des sénateurs démocrate qui est complètement contre ce type d'alliance, qui dit qu'elle laisserait un espace immense à l'extrême droite. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Parti démocrate ait repris un peu de couleur aux dernières élections européennes, 22% des voix, est-ce que ça lui donne des armes suffisantes pour se lancer dans une bataille politique avec la Ligue ?
Je pense pas que ça soit pas le cas. Et je pense aussi que l'idée d'un gouvernement de technocrates, d'experts qui gouvernera temporairement l'Italie sera l'option la plus apte en ces moments, et ça sera,
pourquoi,
je pense que ça sera celle qui sera adoptée par le président de la République Mattarella, Sergio Mattarella.
Alors, pardon, parce qu'il explique, oui, un gouvernement d'experts, dans quelles conditions, dans quelle situation on se retrouverait avec un gouvernement d'experts, c'est-à-dire sans élection, en fait, c'est ça, un gouvernement,
oui, comme ça a été le cas avec le professeur Mario Monti. En fait, ça a été en 2011, voilà, si je ne me trompe pas, oui. Et donc, le président avait pris en main la situation et avait nommé un certain nombre d'experts qui auraient pu mener, disons, accélérer les réformes nécessaires pour remettre le pays sur les rails, parce que en ce moment, on vit une situation économique très, très critique. Et ce qui est urgent, ces moments, par-delà les discussions politiques des différents partis, est-ce qu'on est prêt pour une campagne électorale ou pas, c'est de faire passer un certain nombre de réformes, et c'est ce que je pense sera le choix du président de Mattarella.
Mais alors, en quoi est-ce que ça pourrait être une solution, un gouvernement d'experts? On a quand même vu que tous les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, ils ont été nombreux, puisqu'à chaque fois ça durait quoi, un an, deux ans, et finalement ils ont échoué à redresser l'Italie, ils ont échoué à proposer des solutions économiques et sociales. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut aussi se demander quelle est la responsabilité des gouvernements précédents dans l'ascension de Matteo Salvini, et aussi Giuliano D'Empoli, la responsabilité de Matteo Renzi, mais entre autres de tous ceux qui ont précédé Matteo Salvini aujourd'hui.
Oui, il y a certainement des responsabilités. Il ne faut quand même pas oublier que les trois gouvernements, même les quatre gouvernements, c'est-à-dire Monti, qui a, disons, récupéré une Italie sur le bord de la faillite financière, et puis Letta, Renzi et Gentiloni, avec toutes leurs différences et tous leurs défauts, sont quand même quatre gouvernements qui ont réussi d'abord justement à sauver l'Italie du gouffre financier, et puis à introduire un certain nombre de réformes.
Enfin, la dette a atteint aujourd'hui 132% du PIB.
L'économie et l'emploi, etc. Alors, bon...
Donc il n'y a pas de remise en cause des gouvernements précédents.
Non, avec justement, disons, le vrai problème, c'est que à partir du gouvernement Monti, parce qu'on voit très bien cette fracture se créer dans l'opinion à partir de ce moment-là, il y a eu, par rapport à ces efforts de redressement, je répète, plus ou moins couronnés de succès, et surtout avec, sûrement avec beaucoup de contradictions, mais aussi avec quelques succès, il y a eu effectivement un mouvement d'opinion très très puissant, dont ont bénéficié surtout le mouvement 5 étoiles et la Ligue, qui est justement, a été un mouvement d'opinion qui est devenu très fortement anti-européen, qui est disons basé sur l'idée que nous sommes en train de nous faire avoir au niveau européen sur toute une série de dossiers, de l'économie à notamment évidemment la question des migrants et l'énorme drame de la crise des réfugiés. Et donc, c'est vrai que après tout ça a produit aujourd'hui un mouvement de défiance qui est très fort. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'imaginer qu'un gouvernement de technocrates ou un gouvernement justement sans hommes politiques à l'intérieur puisse, disons, invertir cette marche-là.
Et séduire les Italiens et les convaincre. Parce que Ludmila Giuliano D'Empoli, Napoli vient de parler de mouvement d'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui l'opinion qui soutient Matteo Salvini et même encore jusqu'au tout dernier sondage en cas d'élection anticipée, est-ce que cette opinion-là est davantage concernée par les questions, toutes les promesses que fait Matteo Salvini sur des dossiers de politique sociale et économique, ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une sorte de droitisation de la société, une nostalgie pour le fascisme sur laquelle Salvini a voulu jouer en demandant par exemple les pleins pouvoirs? Est-ce qu'elle existe, cette nostalgie pour le fascisme?
Permettez-moi juste de rectifier quelque chose. Il ne s'agit pas d'un gouvernement de techniciens non politiques. En fait, il s'agirait d'un changement de majorité avec des élus, des personnes qui sont élues à l'heure actuelle. Hein, c'est de ça qu'il s'agit.
Mais on dit technicien.
Oui, mais si vous voulez, même le gouvernement actuel n'est pas issu des urnes au sens strict, puisque ce n'est pas une coalition qui avait été votée dans les urnes. Ce sont les députés qui ont été votés. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci pour cette précision.
Par rapport à la question de la nostalgie du fascisme et par rapport à la situation d'avant, je rappelle, il y a un rapport du Svimez, qui est une société privée qui est quand même très importante, qui montre la désertification de l'Italie du Sud depuis 2002 jusqu'à 2007. 2 millions de personnes sont parties de l'Italie du Sud pour le Nord et pour l'étranger à cause de la situation. C'est une véritable catastrophe, c'est une hémorragie, c'est une fracture territoriale, sociale, économique et politique. On ne peut pas dire que tout se passait bien. Et si les Italiens ont voté comme ils ont voté le 4 mars, c'est qu'il y avait des raisons. Donc on peut espérer qu'effectivement le gouvernement ne va pas naufrager en laissant une béance totale et un Salvini avec des pleins pouvoirs à la clé, mais on ne peut pas dire que ça se passait bien auparavant. La nostalgie, je ne pense pas qu'il y ait une nostalgie massive. Il y a une nostalgie de la part de certains pour le fascisme, peut-être, mais la plupart des gens, ce que voudraient les Italiens, c'est vivre mieux. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il voudrait vivre décemment, dans la dignité, et c'est de ça qu'il s'agit.
Et lui, Matteo Salvini, en tout cas, il en joue d'une possible nostalgie pour le fascisme, même si on comprend bien le Mila Kone, que c'est pas ce qu'il y a de plus important à mentionner dans la société italienne, mais lui, il en joue, vous le suivez sur les réseaux sociaux.
Il joue là-dessus, il joue là-dessus, mais face au vide, que voulez-vous que les Italiens fassent? C'est-à-dire, ils prennent ce qu'on leur propose, ce qui est le plus clinquant, ce qui est le plus convaincant. Ils ont besoin de décisions et ils pensent que Salvini va les sauver. C'est un petit peu le mythe du sauveur parce qu'ils ont l'impression que c'est le vide tout autour.
Anna Bonaloumé, vous venez de la ville de Bergame où est née la Ligue du Nord et vous avez pu observer la transition qu'a opéré le parti, la Ligue du Nord devenue Ligue tout court. Comment on est passé d'un parti régionaliste à un parti qui rassemble aujourd'hui bien au-delà? Peut-être que c'est important à rappeler aujourd'hui dans ce contexte d'explosion d'un homme qui est peut-être juste un homme providentiel et qui fera son temps comme tous les autres et qui restera peut-être finalement que quelques mois, on ne sait pas, mais comment il en est arrivé là?
Oui, il faut rappeler que bon, déjà ça c'est évidemment un coup de communication incroyable, le passage, la transition entre la Ligue du Nord et vers la Ligue, c'est-à-dire un parti fédéraliste, sécessionniste qui souhaitait diviser l'Italie en deux, entre le Nord et le Sud, à un parti où le slogan est d'abord les Italiens, donc d'abord l'Italie. C'est une prouesse incroyable et ça, le parti est né en 1989 effectivement, donc il a une histoire et il est né il y a un moment de son histoire qui a été signé à Bergame, qui est une ville dans la qui se trouve pas loin de Milan, à une heure de Milan, en Lombardie. Et c'est Umberto Bossi qui a fondé le parti. Et depuis donc 1990, les militants se retrouvent sur une pelouse de Pontida, qui est à Bergame, à une ville de Bergame, près du centre de Bergame, pour célébrer les serments de 1167. Et c'est le serment qui a donné naissance à la Ligue Lombarde.
En tout cas, Anna Bonaloumé, à l'époque d'Umberto Bossi, on prenait le parti pour une curiosité. Oui. Et aujourd'hui, c'est la Ligue et c'est Matteo Salvini et c'est donc le pouvoir italien.
Oui, c'est-à-dire à l'époque, disons que Umberto Bossi était un personnage assez folklorique qui est recruté, proféré des injures assez souvent dans ses discours. Et le parti exactement était une curiosité, c'est-à-dire que il y a eu même les réalisateurs Nanni Moretti qui est dans un film il s'appelle Aprile en 1996, filma la déclaration d'indépendance de la Padania, qui est la fameuse région une région imaginaire et autonome, délimitée par le Po et les Alpes, qui fait partie du mythe fondateur de la Ligue.
Ludmila Hakone, et aujourd'hui, où sont les mouvements antifascistes? Que sont-ils devenus à l'heure où Matteo Salvini demande les pleins pouvoirs?
Alors ça, c'est une vaste question. Permettez-moi de commencer par la phrase que le philosophe Luciano Canfora a prononcée quelques jours après les élections du 4 mars. Il a parlé de weimarisation de l'Italie, à la suite des élections du 4 mars et de ce qui allait se passer. Je voudrais toujours faire un pas en arrière, en rappelant deux concepts qui me semblent importants. Où nous voyons avec le rapport de Svimez et par rapport à ce qui se passe dans le Sud et dans ces questions de Ligue du Nord et de la Ligue, c'est qu'en fait la question méridionale qui avait été mise en avant par Antonio Gramsci, elle est toujours au centre des questions italiennes. Et je termine sur un autre concept gramscien, si vous me permettez, c'est celui de bloc social réactionnaire. Je me demande si aujourd'hui nous ne pouvons pas assister, nous ne sommes pas en train d'assister à la mise en place d'un bloc social réactionnaire international avec Salvini qui travaille avec Marine Le Pen, avec les pays de Visegrad et qui a des rapports quand même très troubles au niveau international. Et s'il ne faut pas effectivement s'inquiéter par rapport à cela. Lorsque l'on dit arrêtons les barbares, il y a peut-être de quoi effectivement faire. Il y a peut-être des gens qui commencent à se dire il faut se retrousser les manches et éviter que cela arrive.
Giuliano D'Empoli, depuis quand on imagine possible qu'un parti au pouvoir fasse alliance avec le parti post-fasciste Frères d'Italie, Fratelli d'Italia que vous citiez tout à l'heure? Depuis quand est-ce qu'on peut imaginer possible en Italie que la porte-parole des Fratelli d'Italia se rêve aujourd'hui en force d'appoint de la Ligue?
Justement, c'est le processus de droitisation extrême qui s'est produit au cours des dernières deux années, qui est passé à travers le vote, qui s'est beaucoup consolidé au cours de cette année et demie. Mais il faut voir ce qu'est devenu le discours public en Italie. Aujourd'hui, vous avez eu pendant une année et demie un ministre de l'Intérieur et leader de la principale force politique, donc Salvini, qui mais surtout ministre de l'Intérieur, donc en théorie représentant de l'ordre, qui faisait des déclarations presque tous les jours contre des Italiens d'ethnie, disons des Italiens des porteurs de nationalité italienne, mais dont la peau est trop sombre à son goût, ou des tziganes de nationalité italienne, avec des épithètes racistes et de véritables invitations à la violence et des menaces. Et ça, c'était des déclarations officielles ou sur Twitter, si vous voulez, du ministre de l'Intérieur. Donc, je pense que qui ne suit pas le discours politique et le débat public en Italie de façon très rapprochée ne peut pas se rendre compte du niveau qui a été touché. Et chaque fois que, parce que après Salvini est habile, donc il a testé les limites de ça, il n'a pas trouvé jusqu'à présent de véritables limites. Et évidemment, chaque fois que son discours est passé, ça lui a permis de passer un barème de plus, de rendre acceptable des termes et au fond des idées qui auraient été inconcevables jusqu'il y a très peu de temps, pas plus que deux ou trois ans. Donc ça va très vite et c'est fascinant, je pense, pour quelqu'un qui étudie l'histoire. Évidemment, l'histoire ne se répète jamais, mais il y avait des phénomènes du passé, des années 20 et des années 30, que nous, la génération qui a grandi au cours des dernières décennies, jugions impossible, inconcevable d'une certaine façon. Et aujourd'hui, nous avons eu la démonstration de la façon dont ça se produit. Après, je ne dis pas du tout que les débouchés seront les mêmes, mais les dynamiques et les pulsions qui sont à la base de ces mouvements sont quand même, à mon avis, les mêmes.
Alors, vous citez tous la question européenne et la position de Matteo Salvini en Europe qu'il rapproche de celle d'un Hongrois, Viktor Orban, par exemple. Anna Bonaloum, mais si Matteo Salvini est amené à gouverner seul ou avec l'aide des Fratelli d'Italia, est-ce qu'il quittera l'Union européenne, tout simplement? Est-ce qu'il peut se le permettre?
Je pense pas que ça pourra arriver en fait, parce que il faut se rappeler aussi une chose très importante. Les secrétaires d'État à la présidence du Conseil des ministres, c'est Giorgetti. Monsieur Giorgetti est une figure importante de la Ligue et sont les conseillers, la tête, disons la partie rationnelle du parti, en opposition à une partie plus instinctive qui est celle de exposée qui est celle de Matteo Salvini.
Donc c'est un europhile.
Il est. On peut pas dire ça, mais on peut dire qu'il y a sûrement une formation une très très solide qui est il s'est diplômé à l'Università Bocconi di Milano où viennent les plus grands experts et les plus grands responsables politiques et économiques internationaux comme Mario Monti, Mario Draghi, et ce sont des personnalités qui savent, qui connaissent, qui sont connectées au monde de l'économie internationale et sont conscients qu'une sortie de l'Union européenne ne profiterait pas à l'Italie. Et ainsi que les Italiens, parce que les Italiens ont vu ce qui s'est passé avec le Brexit, le pays qui entre dans une phase très chaotique et d'indétermination politique qui ne permet pas d'avancer pour prendre des mesures. Voilà, donc je pense que la sortie de l'Union européenne ne sera pas forcément la première préoccupation au cas où Matteo Salvini devait se trouver à gouverner en coalition avec d'autres États. Et d'ailleurs, il faudrait rappeler que les positions de Salvini et de par exemple de la Pologne, d'autres pays de Visegrad, ne sont pas forcément convergentes sur tous les aspects, parce que il suffirait juste de voir la directive européenne des travailleurs détachés. Et pour voir que, par exemple, l'Italie pourrait avoir un avantage dans la nouvelle conformation, dans la nouvelle directive telle qu'elle a été adoptée en 2017, tandis que pour les pays comme la Pologne ou la Hongrie, la nouvelle directive est contre-productive, c'est-à-dire que ne permettra plus aux travailleurs polonais ou les fameux plombier polonais de travailler en France à des conditions avantageuses.
Alors, Ludmila Hakone, est-ce que vous êtes d'accord sur cet attachement que manifesteraient encore les Italiens à l'Europe? On parlait au tout début de la construction européenne de la fibre européenne des Italiens. L'ont-ils toujours cette fibre-là? Qu'attendent-ils de Matteo Salvini en la matière?
Je pense que les Italiens ne sont pas contre l'Europe, ils sont contre l'austérité et contre ses dérives. Et je ne pense pas non plus que Matteo Salvini ait l'intention de faire sortir l'Italie de l'Europe, parce que ça serait un peu une catastrophe pour lui-même. N'oublions pas que la Ligue du Nord a prêché la sécession de l'Italie du Nord du pays, et ça n'a jamais été fait. Ça a été un argument électoral. C'est quelque chose d'infaisable et totalement contre-producteur. C'est un argument tout simplement de propagande. Je pense que ce qui m'inquiète le plus, c'est la convergence avec les pays de Visegrad dont on parlait, ou d'autres pays très à droite. Ils sont plutôt sur des questions des libertés et des droits de l'homme. C'est là-dessus qu'il faudrait s'inquiéter.
Alors, les Italiens sont contre l'austérité, et à ce sujet, que peut Matteo Salvini? Est-ce qu'il peut longtemps capitaliser, entre guillemets, sur des promesses qu'il a faites, quand on sait, Giuliano da Empoli, que la troisième économie de la zone euro, l'économie italienne, ne va pas bien, que sa dette atteint 132% du PIB quand Bruxelles n'en tolère que 60, et qu'on lui demande de toute façon de faire des économies, et que sans doute cette loi budgétaire dont parlait Anna Bonaloum tout à l'heure, qui doit être votée à l'automne, va sans doute lui faire du tort. Donc est-ce que finalement la fin annoncée de Matteo Salvini ou pas peut être mise au crédit d'une politique d'austérité peut-être indispensable ou pas, je ne sais pas.
Évidemment, provoquer cette crise, comme on le disait au début, a été une occasion pour Salvini de repousser le problème. D'une certaine façon, si aujourd'hui des forces politiques alternatives à la Ligue donnaient vie à un gouvernement contre lui, il se trouvait dans la situation de la propagande parfaite, parce que il pourrait justement pester contre ce gouvernement qu'il jugerait antidémocratique, même s'il ne le serait pas du tout, parce que justement nous sommes dans un régime de démocratie parlementaire, mais il pourrait présenter ça assez facilement à ses électeurs, et en plus ce gouvernement se trouverait justement à devoir faire une loi de budget très sévère, avec des coupes autour de 30 milliards dans le budget de l'État.
32 ou sinon, plus d'ailleurs, si les réductions d'impôts.
Une augmentation de la TVA ou de toute façon des mesures très dures qui seraient que causées en partie par la gestion catastrophique de l'économie de la part de ce gouvernement en Conte et au cours de la dernière année et demie, mais dont Salvini ne devrait pas du tout supporter le poids. Donc c'est certainement un des éléments qui peut aujourd'hui l'avoir poussé à sortir et à retirer son appui au gouvernement. Est-ce que ça peut se faire de façon indéfinie? Non, évidemment non. Salvini joue sur l'ambiguïté de la nature même de la Ligue, qui est un parti qui a un soutien de la part de beaucoup de petits entrepreneurs, de commerçants du nord de l'Italie, et qui a une tradition de bonne gestion au niveau local. Donc Salvini appuie sa démagogie en partie aussi sur le fait que les électeurs du nord de l'Italie ont une bonne opinion de la gestion, des capacités gestionnaires de son parti au niveau local. Donc, alors que lui, il se lance justement dans des arguments purement démagogiques.
Donc,
c'est un jeu qu'il peut mener jusqu'à un certain point. Après, tôt ou tard, s'il sera aux affaires, évidemment, il ne va plus pouvoir le faire.
Donc Ludmila Hakone, pour l'instant, les mesures prises par Matteo Salvini n'ont pas bénéficié à ceux qui ont le plus souffert de l'austérité, n'ont pas été aussi largement populaires qu'ils les voulaient.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la capitalisation chez les petits entrepreneurs et l'idée de la bonne gestion au niveau local. Vous savez, il y a une différence très importante entre 5 étoiles et la Ligue par rapport à leurs propositions. Par exemple, la Ligue voudrait faire la flat tax, la taxe plate, et là, à l'heure actuelle, le 5 étoiles a fait des lois sociales et voudrait faire le salaire minimum. J'appelle quand même qu'en Italie, le salaire minimum n'existe pas. Donc vous voyez, on n'a pas du tout la même vision des choses.
Ludmila Hakone, est-ce que Matteo Salvini pourrait être un de ces hommes providentiels qu'on a vu arriver en Italie la période de jusque dans les années 90, on avait un système qu'on pouvait critiquer, mais assez stable, avec des partis hégémoniques, la démocratie chrétienne, le parti communiste qui faisait contrepoids. Depuis quelques années, on a ce phénomène d'attente de l'homme providentiel. Est-ce que Matteo Salvini pourrait chuter aussi vite qu'il est monté, comme d'autres avant lui?
Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, d'autant qu'il n'a pas la capacité de régler les problèmes de fond de l'Italie.
En tout cas, les sénateurs se sont donc réunis tout à l'heure à 18h et pour l'instant, rien n'a fuité de cette réunion d'importance pour le destin de l'Italie, des Italiens. Et a priori, le journal de 22h y reviendra tout à l'heure sur France Culture. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, Ludmila Hakone, Anna Bonalume. On peut vous lire donc dans l'Espresso. Et Giuliano da Empoli, je rappelle que vous avez publié un essai cette année. C'était aux éditions Jean-Claude Lattès et ça s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci aussi à la RTS d'avoir assuré la liaison duplex. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Alia Tovin, Léa Capuano, Valentin Berg et Roxane Poulain. L'émission a été réalisée par Laure Chastan et Milena Elig, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.